Bonjour à tous, alpinistes enherbés et alpinistes expérimentés. Je suis Thomas Minot du blog Objectif Alpinisme et je partage avec vous mon premier podcast sur un compte-rendu de course. Alors la course, c'était l'arête à Lorenz dans le massif du Mont-Blanc, à côté de l'Aiguille du Midi. Nous avons fait cette course le mercredi 1er novembre 2017. Et donc du coup, dans ce podcast, je vais partager avec vous mes ressentis personnels sur cette course, le détail de la course et ce que j'en ai appris, autant au niveau technique que pratique, pour que vous puissiez ensuite la faire dans les meilleures conditions. Alors, soyez un peu indulgents parce que c'est mon premier podcast, donc voilà, je risque de faire quelques erreurs et donc voilà, ne m'en voulez pas. Alors pourquoi un podcast? Ben tout simplement parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de lire les articles ou qui ont beaucoup de trajets le matin, et je pense que le podcast c'est un bon moyen pour voilà, toucher plus de monde, offrir un contenu peut-être plus accessible pour certains, quelque chose que vous pouvez écouter dans les transports ou en faisant autre chose. Donc voilà, je lance ce premier podcast. Et tout de suite, on va commencer avec une intro littéraire. Donc je vais vous lire un petit passage d'un livre que je lis en ce moment qui est très bien. Je vous laisse apprécier la littérature. Étincelant de roc et de glace, le monde fascinant des cimes est un catalyseur. Il suggère l'infini, mais n'est pas l'infini. L'altitude ne nous donne que ce que nous apportons nous-mêmes. L'alpinisme est un moyen d'expression. Ce qui le justifie, ce sont les hommes qu'il permet d'obtenir, ses héros et ses saints. Dans l'effort vers le sommet, vers l'absolu, l'homme se vainc, s'affirme, se trouve. Dans l'extrême tension du combat, aux frontières de la mort, l'univers disparaît, finissant à nos côtés. L'espace, le temps, la crainte, la souffrance ne sont plus. Il peut arriver que tout devienne alors facile, comme au sommet d'une vague, dans la furie du cyclone. Un grand calme s'établit étrangement en nous. Le calme qui n'est pas le vide, mais l'ardeur même. Alors, nous savons avec certitude qu'il y a en nous quelque chose d'indestructible, contre quoi rien ne prévaudra. Après cette belle intro du livre Annapurna Premier 8000, que je vous conseille vraiment de lire, c'est un livre très sympathique, qui raconte en fait la première expédition sur un 8000 de l'Annapurna. Ça a été une expédition française. L'Annapurna, c'est un sommet de l'Himalaya. On va donc rester dans le même thème, puisque ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant de faire la course de l'arête à Lorenz, on voulait faire les pointes Lachenal avec mon compagnon de cordée. Et donc en fait, Lachenal était un alpiniste qui, avec Maurice Herzog, a le premier conquis l'Annapurna, le premier 8000 qui a été conquis dans l'histoire de l'alpinisme. Je suis donc parti avec un ami qui a à peu près le même niveau que moi. Nous sommes donc arrivés à Chamonix, la ville de l'alpinisme, et nous avons pris le téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui est très cher, soit dit en passant, qui coûte 60 euros aller-retour. Donc ça, c'est bon à savoir pour vous si vous souhaitez faire une course dans le massif du Mont-Blanc. J'en reparlerai à la fin pour vous donner quelques conseils. Nous avons donc pris le téléphérique, et arrivé en haut, on a une vue magnifique, le temps est splendide. On se prépare dans une sorte de tunnel juste avant de sortir en fait sur l'arête de l'Aiguille du Midi. Donc on s'encorde et donc on finit par commencer la course. On descend sur cette arête qui était très effilée, c'était une arête de neige et on avait à peine la place pour marcher seul. On ne pouvait pas se croiser, ça c'est sûr. Donc ça c'était déjà assez impressionnant. J'avais jamais marché sur une arête comme ça et de chaque côté c'était assez vertigineux, donc si vous avez le vertige, peut-être évitez de commencer par ça. On arrive du coup, on traverse quelques crevasses, on traverse le glacier juste sous l'arête des Cosmiques et l'Aiguille du Midi. L'arête des Cosmiques, c'est une arête qui mène à l'Aiguille du Midi et c'est ce qu'on voulait faire en fait à la base. On voulait faire les pointes Lachenal suivi de l'arête à Lorenz, ce qu'on a finalement fait, juste l'arête à Lorenz, et finir par l'arête des Cosmiques. Sauf que c'était un petit peu ambitieux. On s'est retrouvé en fait dans les pointes Lachenal, on y est allé, en fait on s'est retrouvé dans une pente de glace à 40 degrés. On a fait vraiment une erreur de débutant, une erreur de lecture de terrain. Il se trouvait que la pente était complètement gelée et il y avait d'autres passages beaucoup plus praticables avec de la neige un peu moins dure qui aurait pu passer. Nous avons donc perdu beaucoup de temps dans cette montée. On n'avait pas le niveau, on n'avait pas les piolets techniques non plus. Les piolets techniques, c'est des piolets qui sont un peu recourbés et qui permettent de ne pas se taper la main contre la glace quand on enfonce le piolet dans la glace. En fait, la main est un petit peu vers soi et du coup, elle ne colle pas à la glace. En fait, elle a une sorte de petite protection, un peu comme un pommeau d'épée et qui permet de ne pas taper sa main contre la glace. Donc, on n'avait pas ces piolets-là, on avait des piolets droits. Et donc, on a perdu beaucoup de temps dans cette pente-là. Ça nous a quand même permis de nous entraîner pour la cascade de glace, même si on n'en avait jamais fait. On a pu poser des relais, on a pu poser des broches, on a progressé donc sur une pente raide de glace. Et ce que je retire de cette erreur, c'est l'importance de la lecture du terrain. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit sur le topo et ensuite à ce qu'on voit dans la réalité. C'est-à-dire qu'il faut confronter le topo le plus possible à la réalité. Nous, en fait, le topo disait qu'il fallait monter par cette pente-là, mais il ne donnait pas beaucoup plus de précision. Et je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est de se poser et réfléchir un petit peu 5 minutes par quel passage on pouvait passer. Et je pense que quand on n'est pas sûr, il vaut parfois mieux suivre les autres. Il y avait certaines personnes durant notre course qui étaient devant nous et qui ont pris un chemin différent de ce qui avait marqué sur le topo. Et on a choisi de pas les suivre et de suivre ce qui avait marqué sur le topo. Et on a fait ici une erreur. Je pense qu'on aurait dû soit les suivre, soit au moins mieux analyser le terrain. Ce que je retire donc de cette première expérience en glace, c'est qu'il faut vraiment donc analyser le terrain, vraiment confronter le topo au terrain. Et une deuxième aussi leçon, c'est que la progression en glace est extrêmement lente. On a mis énormément de temps pour faire 20 mètres. Ensuite, on est redescendu parce qu'on ne se sentait pas à l'aise. Et on a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour progresser sur la glace. Ça fait très mal au mollet. Alors ça, on me l'avait déjà dit, mais je pense qu'il faut l'expérimenter pour le comprendre. Ça fait très mal au mollet, c'est très dur de poser une broche alors qu'on repose que sur 4 pointes de crampons et qu'on a une main sur un piolet. Donc c'est très dur de se sentir assuré au moment de la pose de la broche. Je n'arrivais pas à poser la broche à une seule main et je pense que ça doit être possible parce que sinon c'est très dur de lâcher le piolet, c'est pas du tout rassurant. Finalement donc, nous sommes allés à l'arête à Lorenz, c'est une course PD. J'avais pas dit que les Pointes Lachenal c'était une course AD, donc une course un peu au-dessus de notre niveau, je pense. Donc on a basculé sur cette arête à Lorenz, on a donc abandonné les Pointes Lachenal et je pense qu'on a bien fait. C'est une preuve d'humilité et à mon avis c'est une bonne chose que d'être prudent et de ne pas être trop ambitieux quand on se sent pas à l'aise. Donc on est parti à l'arête à Lorenz qui est juste en face en fait, direction Aiguille du Midi. Donc là c'était facilement protégeable, on s'est senti tout de suite beaucoup plus à l'aise. C'était du mixte, c'est-à-dire neige et roche. C'était légèrement vertigineux, c'est-à-dire que, pareil, il ne faut pas avoir le vertige non plus, mais de toute façon, si vous avez lu mon guide, je vous conseille de faire des randonnées un peu vertigineuses avant de commencer l'alpinisme vraiment en tant que tel. Faire des randonnées vertigineuses, faire de l'escalade, donc normalement, si vous envisagez de faire cette course, c'est que vous êtes déjà confronté au vide et vous savez votre réaction face au vide. Nous avons donc progressé en corde tendue sur cette arête. La progression en corde tendue, c'est une progression qui permet d'avancer assez vite puisque les deux compagnons de cordée avancent simultanément en posant. Donc le premier pose des points d'assurage, des béquets ou des coinceurs dans des fissures ou les béquets autour des sangles autour de rochers qui tiennent bien. Celui qui est derrière, le second, reprend le matériel, donc reprend les sangles, reprend les coinceurs pour faire un point un peu plus loin. Quand le premier n'a plus de matériel, le second le rejoint et lui redonne le matériel ou alors passe en premier de cordée pour continuer. Contrairement à la progression en longueur, c'est-à-dire quand on dit tirer des longueurs, c'est-à-dire qu'il y en a un, le second, qui reste derrière et c'est pareil que, par exemple, quand on fait une voie en tête, le second assure le premier. Le premier pose des points d'assurage, donc la même chose, il pose des béquets, il pose des coinceurs. Et le second assure derrière sur un relais qu'il a lui-même créé ou qui est sur place. Mais cette progression est beaucoup plus lente, du coup, puisque le second n'avance pas en même temps que le premier. Il y a eu un passage délicat sur cette arête. qui était, je pense que c'était, si on avait dû mettre un niveau d'escalade, à mon avis, ça aurait été dans le 5. Et c'était un peu délicat parce qu'en fait, c'était une sorte de fissure. Et il y avait, donc il y avait une sorte de ressaut juste en dessous qui permettait de poser les pieds, mais qui était quand même très très fin. Donc c'était difficile de progresser là-dessus. Et à côté de la fissure, il y avait une corde à demeure. Donc heureusement qu'il y avait cette corde. On s'est vaché dessus avec mon ami. Et là, pour le coup, on a tiré des longueurs pour éviter de faire des bêtises. Donc mon ami m'assurait pendant que je suis descendu. Donc lui, il était à ce moment-là en premier de cordée. Donc je l'ai assuré pour qu'il descende. Et ensuite, lui m'a assuré pour que je descende par cette fissure. Et la corde à demeure tenait plutôt bien. Mais c'est vrai que c'était assez délicat avec les crampons et voilà, de progresser sur cette fissure. Le passage doit faire peut-être 3 mètres de long, donc c'est vraiment pas long. Il est légèrement incliné vers le bas, donc on descend un petit peu dans une sorte de mini-col pour, voilà, pour ensuite remonter. Mais la corde à demeure permet vraiment de passer sans trop de soucis. La fin de la course se termine en fait sur la terrasse du refuge. Alors nous, on a eu une petite surprise parce que le refuge était en fait fermé, vu qu'on était en novembre, voilà, il n'était pas ouvert. Et du coup, normalement, on est censé passer dans le refuge pour ressortir par l'entrée, sauf que là, c'était pas possible. Et en fait, on a dû passer sur la gauche, la terrasse continue un petit peu sur la gauche, et contourner le refuge. Alors, on est vraiment resté au même niveau que le refuge, c'est-à-dire qu'on n'est pas descendu plus bas. Il y avait des cordes qui étaient à demeure un tout petit peu plus bas. Je pense que certaines personnes ont tiré des rappels, mais à mon avis, c'est un peu compliqué, surtout que ce passage par lequel on est passé passe très bien. On voyait quelques traces dans la neige qui indiquaient que certaines personnes étaient passées avant nous. Et ça, on peut vraiment poser des points d'assurage facilement sur le refuge même, c'est-à-dire sur les poutres de métal qui tiennent le refuge. Nous, on posait des points ici. On a tiré une petite longueur, c'est vraiment très court, c'est peut-être une dizaine de mètres pour contourner le refuge. Et donc ensuite, on arrive directement devant le refuge, qui nous permet ensuite de descendre au col, puis de remonter par la voie normale. Nous voulions faire l'arête des cosmiques à la base, comme je vous l'avais dit, mais c'était pas possible parce qu'on était pressé par le temps et qu'on savait pas combien de temps ça allait nous prendre de faire l'arête des cosmiques, étant donné qu'on n'est pas non plus très très à l'aise encore dans ce style de terrain. Du coup, on est remonté par la voie normale, c'est-à-dire la voie qu'on a prise à la descente, on a passé les crevasses et on est remonté par l'arête. Alors, qu'est-ce que j'ai appris durant cette course? Je vais essayer de vous partager le plus de détails pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Déjà, ne pas être trop ambitieux dans le topo qu'on a prévu, dans l'itinéraire qu'on a prévu. Voilà, c'est un initiateur CAF qui m'avait proposé de faire ça. L'initiateur n'était pas avec nous, mais il m'avait juste proposé cette course en termes d'initiation. Je me suis dit que c'était une bonne idée, sauf que en fait c'était beaucoup trop long. On a pris beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps dans la glace, dans cette pente de glace. On a appris cependant à faire des relais, à poser des broches, des relais sur glace, à poser des broches. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. C'est très dur de poser des broches, donc faites attention. Si vous vous retrouvez dans une pente comme ça, n'imaginez pas que c'est facile. Poser une broche à une main, ça s'apprend. Je pense qu'il faut pas mal d'entraînement. On a aussi marché en corde tendue. Donc ça, je pense que c'est très intéressant de s'entraîner à ça parce que ça permet d'être rapide et de tenir en fait les délais dans la réalisation d'une course. Donc marcher en corde tendue, à mon avis, c'est une des techniques de base qu'il faut absolument maîtriser. Et ça, pour le coup, il faut vraiment s'entraîner. Il n'y a pas tellement d'autres façons d'apprendre. On a pu aussi jouer un peu avec les crampons dans la glace et sur le rocher. Et c'est assez curieux de se rendre compte que les crampons accrochent très bien en fait aussi sur le rocher. On a l'impression que ça va glisser et en fait ça accroche très bien. On peut vraiment appuyer sur des toutes petites réglettes, sur des petits gratons. Et ça accroche vraiment plutôt bien. Donc ça, pareil, je vous conseille vraiment d'aller vous entraîner à mettre des crampons sur un rocher, peut-être à faire du dry tooling si vous avez l'occasion. Le dry tooling, c'est une discipline où on met les crampons, on prend des piolets comme en cascade de glace, sauf que c'est pas sur de la glace, c'est sur du rocher. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à en faire et entraînez-vous avec vos crampons sur du rocher, ça peut être intéressant. Peut-être sur une voie facile d'escalade en couenne, enfin voilà. De mettre ses crampons pour s'entraîner, ça peut être intéressant pour vous. On a aussi appris à assurer au demi-cabestan parce qu'on ne voulait pas toujours sortir le descendeur et puis c'était l'occasion vu que c'était facile. Le demi-cabestan, du coup, c'est un nœud qui est très utilisé en alpinisme. Je pense que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, allez regarder sur Internet. C'est important de le connaître avec le cabestan. C'est des nœuds d'assurage de base qu'il faut absolument connaître et qui se font à une main en plus. Le cabestan et le demi-cabestan se font à une main. Il y a une technique un peu particulière. Je ferai une vidéo pour vous expliquer. Et donc on a assuré sur demi-cabestan, c'est assez rapide, ça permet d'assurer sans sortir le descendeur, sans faire 15 000 manips, et c'est assez pratique. On a compris aussi l'utilité des piolets techniques, vu qu'on n'en avait pas. On n'avait que des piolets droits, et les piolets techniques sont vraiment très utiles quand il s'agit de monter des pentes assez raides, pour ne pas avoir froid aux mains, ne pas se taper la main contre la glace, et je pense que c'est aussi très utile d'en avoir deux, nous on n'en avait qu'un. Chacun. Et du coup, c'était très compliqué parce qu'on avait une main qui était constamment sur la glace en fait pour s'appuyer. Et à la fin, on avait les mains complètement gelées. On avait très très froid. Donc, important d'utiliser le bon matériel quand on fait ce type de montée. J'avais pas d'antibottes sur mes crampons et ça n'a pas été un problème en fait. Donc, c'est intéressant de noter que je pense que s'il a neigé beaucoup beaucoup, ça peut être intéressant d'avoir les antibottes. Et c'est clairement, si vous en avez, mettez-les tout le temps. Mais moi j'en avais pas et voilà, c'est passé très bien parce que la neige était quand même assez compacte. Il y avait aussi un chemin qui était assez bien tracé. Donc voilà, les antibottes n'étaient pas un souci. C'était aussi intéressant de noter qu'on était très fatigués tous les deux. Aussi bien au début, il y a eu des légers maux de tête. Alors moi j'en ai eu quelques-uns. Mon ami allait plutôt bien et en fait c'est à la suite, c'est à la montée où on a, même dans la descente, dans la traversée du glacier, on était très fatigué pour avancer. Alors c'était, je pense, un ensemble de plusieurs facteurs. On était sur de la neige, donc nos pieds s'enfonçaient beaucoup. On était en altitude, 3007, 3008 et quelques. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi. C'est vrai qu'on n'a pas mangé avant la fin de la course, donc vers 16 h, quelque chose comme ça. Et donc pour la montée, à mon avis, ça a beaucoup joué aussi. Moi, j'en pouvais plus. J'ai jamais été aussi fatigué dans une course comme ça. J'avançais vraiment tout doucement. Voilà, je pense que c'est une combinaison de ces trois facteurs, la neige, la fatigue due à l'altitude et le fait qu'on n'avait pas mangé pour être plus rapide et plus léger. On aura aussi appris à marcher sur une arête qui est très effilée. Donc là, ça demandait beaucoup de concentration. Alors pour nous c'était assez impressionnant, il y avait d'autres personnes qui marchaient vraiment très facilement dessus. On a l'impression que sur le fil de l'arête ça tient pas vraiment, il y a une sorte de chemin mais on n'osait pas trop forcément se mettre dessus. Parfois on marchait un peu sur le côté dans la pente, parfois on marchait au contraire sur le dessus quand ça avait l'air plus solide. C'est important de marcher sur une arête comme ça parce qu'on en rencontre souvent et que voilà, marcher avec des crampons, ne pas se prendre les crampons dans le pantalon. Marcher, essayer de trouver son équilibre sur la neige, bah, c'est pas forcément des choses qui sont évidentes la première fois. Voilà, ça peut être quelque chose, un exercice très intéressant. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt sur le blog.